Avec vous, Mishka Assayas, bonsoir.
Bonsoir, mais merci beaucoup Sarah. Ben, oui, mais c'est toujours spécial d'être à l'antenne, vous savez, pour moi. On vous retrouve d'ici une heure dans ce studio où c'est très exceptionnel, je me trouve accompagné. J'ai quelqu'un en face de moi que j'ai eu sans doute l'imprudence de laisser entrer dans ce studio. Quelqu'un qui est à sa façon, indépendamment de son prestige, un redoutable concurrent quant à la programmation musicale. Enfin, comme je suis sur mon territoire, c'est moi qui dégaine. Salut Étienne.
Bonsoir Mishka.
Bon, je me permets d'être familier.
Tu peux.
Parce que c'est pas parce que cette conversation est publique et qu'elle va s'étendre pendant près d'une heure, radio diffusée par France Inter, que je vais faire semblant de m'adresser avec une distance convenue à Étienne Daho. Je me dois de dire que même si nous n'avons jamais été des intimes, nous nous connaissons depuis très longtemps.
On a beaucoup d'amis en commun.
Voilà, d'ailleurs, il y en a un qui est présent ici.
Ouais, Pierre-René Vorms.
Pierre-René Vorms, le seul photographe à avoir pris des photos de Joy Division en France. J'insiste là-dessus. C'est lui qui m'a fait écouter la cassette d'un jeune chanteur rennais, Étienne Daho Junior.
Ouais, je sais, c'était vraiment mon manager de l'époque. Je pense qu'il a intoxiqué tout le monde avec ma cassette.
Il peut s'asseoir et dire un mot, hein, s'il veut, Pierre. Non. Oui.
Viens, Pierre. Et puis Pierre,
bonsoir,
c'est la
Étienne,
première personne.
Bonsoir,
qui a, c'est la première personne aussi qui a fait des photos de moi. Et à l'époque, j'étais très rétif à ça, à poser pour les photos et tout ça. J'étais très gêné, tout ça. Et en fait, je suis bien content de les avoir aujourd'hui, parce que t'as vraiment documenté des années de fabrication, enfin, qui sont essentielles.
Mais j'ai jamais su comment vous étiez rencontrés exactement.
Alors on s'est rencontrés, en fait, moi j'étais en reportage pour le magazine Actuel. J'avais réalisé quelques mois avant un reportage sur le groupe Marquis de Sade à Dijon. Et donc j'avais trouvé ce groupe très bien, le reportage a été publié dans le magazine. Quelques semaines après, j'avais rencontré Joy Division d'ailleurs à Paris, où j'avais fait cette série de reportages, de photos avec le groupe dans les Halles avant leur concert au Bain-Douche. Et un mois après, Actuel m'a envoyé à Rennes pour faire un reportage sur les enfants de Marquis de Sade. C'était la jeune scène rennaise, c'était des groupes qui suivaient un petit peu la mouvance de Marquis de Sade, qui était un groupe assez hype à l'époque. Et dans tous les groupes que j'ai eu à photographier, il y avait un gars qui était tout seul parmi tous ces duos, ces groupes, ces quartettes. C'était Étienne Daho Junior.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai qu'il m'a fait écouter sa cassette et j'ai flashé.
Ma cassette.
Bon, alors je vais rassurer ceux qui vous rassurez, rassurer tous ceux qui nous écoutent. On ne va pas éclairer à la lampe torche nos vieilles histoires obscures de musique écoutées en commun. À l'inverse, parce que ce soir, en Étienne Daho, j'accueille l'explorateur de musique d'aujourd'hui, à la curiosité en perpétuel éveil, et comme je le disais, bah, il me ferait une redoutable concurrence.
J'en doute.
Oh ben, si. La première chanson que nous venons d'écouter ce soir, tu l'as immédiatement identifiée. C'était qui, Étienne ?
Oui, c'était Billie Eilish, mais j'ai acheté l'album, donc voilà, je connaissais cette chanson. J'avais écouté à l'antenne France Inter, j'avais écouté le single et j'ai acheté l'album, voilà.
Oui. Et qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure, que tu avais été un peu déçu par l'ensemble ?
J'aime beaucoup le single, le reste de l'album. Enfin, peut-être que j'aurais dû passer un peu plus de temps à écouter, mais bon.
Oui, mais ça, on n'a jamais le temps d'approfondir, malheureusement. Mais oui. Écoute, alors, on va écouter ton premier choix. Il s'agit d'un jeune chanteur canadien, Daniel Caesar, que si ma mémoire est bonne, je n'ai jamais diffusé dans cette émission. On va l'écouter d'abord et en parler après.
D'accord.
I'm trying to breathe, why won't you let me? I'm trying to leave, please just forget me. Hang on to sleep, our sun is setting, can hardly believe this got so messy. Won't you let me go?
C'est un choix inattendu d'Étienne Daho que j'ai en face de moi et ça me fait un immense plaisir. C'était un chanteur de Toronto, Daniel Caesar.
Oui,
alors il y a quand même une chose assez inattendue parce que bon, évidemment, avant de préparer cette émission, tu m'as envoyé une liste assez imposante de titres. Après, on a fait un tri, on a écrémé. Et il y a beaucoup, beaucoup de soul moderne, de soul contemporaine, ce qui est un style auquel on ne t'associe pas nécessairement. Enfin, même si, quand même, je me rappelle qu'il y a eu dans Paris ailleurs, avec Saudade, il y avait du gospel, il y avait des chœurs, il y avait des cuivres. Mais alors, il y a quand même une chose qui est frappante pour moi, c'est que c'est pas le seul chanteur que tu as choisi dans ce registre, mais ce sont des chanteurs qui, comme très souvent dans le cas de la soul, ont été élevés dans des familles religieuses, croyantes. Dans le cas de Daniel Caesar, c'est des adventistes du septième jour. Ce sont des garçons qui ont chanté au temple, très jeunes avec leurs parents. Carrément, lui, je crois que son père est pasteur. Enfin, et c'est frappant parce que toi, je me souviens, quand tu as débuté, on disait toujours, bon, il a une voix timide, il susurre, il murmure, il est très effacé.
C'était vrai.
Oui, c'était vrai, mais enfin, on ne t'attendait pas comme fan de gens qui chantent souvent à gorge déployée, avec beaucoup de...
Mais il ne chante pas à gorge déployée,
alors,
justement.
Explique.
Il est magnifique à voir. Je l'ai découvert dans une émission, une série qui s'appelle Tiny Desk Concert. Je ne sais pas si tu les connais.
Quelque chose, oui.
C'est dans une espèce de petite librairie avec un tout petit public. Il y a des éclairages comme ça. Enfin, il y a pas du tout de sophistication particulière. Et c'est prodigieux de délicatesse. Il chante les yeux fermés comme ça, avec la tête un peu penchée. C'est magnifique. Et j'ai eu envie de le découvrir. En fait, il a fait plusieurs albums.
Oui.
Dont un qui s'appelle Freudian. Qui est magnifique. Ouais. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien produit. J'aime beaucoup cette musique. Parce que je crois que j'ai d'abord fait le tour de mes vieilles obsessions.
C'est ce que tu m'as écrit.
Mais c'est vrai. Je crois qu'au bout d'un moment, évidemment, je retombe sur un Barrett avec avec Extase ou sur un Velvet. Mais la vie continue, le monde continue. Il y a plein de choses qui se font et il y a plein de choses qui se font aujourd'hui que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas avec ce que j'écoute, que c'est vraiment dans ce type de musique, dans cette new soul ou dans le rap américain, que les productions sont les plus inventives et qu'on trouve vraiment des portes qui s'ouvrent, vraiment des choses plus culottées que dans le rock finalement, qui tourne un peu autour de ces mêmes systèmes finalement.
Oui, et c'est drôle, il y a une chose très juste que tu as dite tout à l'heure à Eva Bester. Tu parlais du fait de t'alléger avec les années. On en parlait tout à l'heure hors antenne. C'est-à-dire que l'avantage de vieillir, entre guillemets, enfin pardon,
il en faut quand même.
Oui, c'est qu'il y a quelque chose que justement les vieilles obsessions ne te lestent plus et que tu as une sorte d'ouverture à quelque chose qui justement ne va pas t'écraser, ne va pas t'oppresser, ne va pas...
Mais il y a aussi une chose, c'est que nos adolescences et les héros de nos adolescences et le monde dans lequel on était nous permettait d'avoir aussi une attitude de romantisme noir, enfin d'attirance pour les losers, pour le noir, pour la déchéance.
Oui.
Y avait une esthétique de ça.
Bah, ça vient des poètes maudits, c'est une vieille tradition post-romantique française.
Voilà, l'esthétique du noir et de la déchéance. Comme quelque chose de vraiment poétique et beau. Donc on n'est plus du tout dans le même monde. On est dans un monde beaucoup plus dur. C'est pas la même chose. On vivait dans un monde beaucoup plus doux qui nous permettait d'avoir cette envie ou cette liberté de s'abandonner à des fantasmes dark.
Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais justement à ce propos, je voulais te faire écouter une voix que tu ne connais pas, et c'est un chanteur qui vient également de Toronto, et qui a fait, il se trouve, un duo avec Daniel Caesar. Est-ce que tu as entendu parler d'un jeune chanteur qui s'appelle Mustapha? Ça te dit quelque chose?
Non, pas du tout.
Alors, c'est assez surprenant, parce que justement, ça renforce ce que tu viens de dire. C'est quelqu'un qui a eu une adolescence extrêmement difficile, pour parler pudiquement, et qui a grandi dans les quartiers de tours d'habitation de Toronto, qui sont un peu comme à Marseille, au cœur de la ville. Et il a eu, je crois, son meilleur ami qui a été tué au cours d'un deal, son frère aussi qui est mort. Enfin, donc, vraiment une histoire absolument tragique. Et le gars, il s'est lancé à 15-16 ans parce qu'il était encouragé par un prof dans la poésie, dans le slam. Et en fait, son obsession, c'était pas de faire du rap, du hip-hop ou du R&B comme la plupart de ses potes. Et d'ailleurs, c'est la ville de Drake, c'est la ville de The Weeknd à Toronto, tout ça. Il a fait du folk. Il était ébloui par le folk. Et voilà ce qu'il fait. Je voulais vraiment te le faire écouter. God, I can't sleep without you, God, in my dreams. I can't draw you, I can't paint you, oh, my eyes are weak. Oh, tell me what to think, oh, tell me what to see. I'll go anywhere to bring you closer to me. Speak to you, God. They whisper and I hear what they say. And not go away, but I hate going back home. Where Father God is raised from, where all the black magic awaits. And I questioned it, I questioned your ways. Why my arm gave up her life, why my heart always swayed. And you know I was so all my trials in the grave. I'll go anywhere to bring you closer to me. C'est un grand privilège parce que j'ai Étienne Daou en face de moi. J'ai l'impression d'être dans mon salon et de te mettre un CD sur ma platine et de dire écoute, je viens d'acheter ça à la Fnac. Je sais pas où. Écoute ça.
C'est ça qui est génial en fait. On a toujours. Enfin, j'ai l'impression aussi en écoutant tes émissions que c'est ça.
Oui.
Que t'es le pote qui va nous faire découvrir un disque chez lui.
Oui, oui, mais ça, c'est frappant, non, cette voix, parce que
ouais, c'est très beau.
Le contraste entre une vie d'adolescence extrêmement violente et cette douceur, ce désir d'allègement et d'apaisement chez un très jeune homme, ce qui est rare, parce qu'effectivement, comme tu dis très justement, la jeunesse sans histoire, entre guillemets, celle où on n'a pas été confronté au deuil, à la violence, justement, te pousse vers un romantisme noir, etc. On parlait tout à l'heure de notre obsession pour Syd Barrett, tu voulais qu'on en parle, mais écoute, on peut en parler, effectivement, parce que moi, j'ai été fasciné par la...
Mais toi, tu l'as rencontré, je crois, t'es allé
alors,
le voir.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un reportage en 1982 avec un autre journaliste.
Oui,
et l'article était paru dans Actuel, et en fait, moi, j'ai pas osé le rencontrer. En fait, j'étais mort de peur, j'avais dû inventer un bobard, parce que je savais que, paraît-il, il s'était remis à une activité artistique qui n'était pas la musique, c'est-à-dire qu'il dessinait et peignait, et j'avais inventé un bobard que j'étais un étudiant qui voulait organiser une exposition de Syd Barrett aux Beaux-Arts. Bon. Et en fait, j'ai sonné, et c'est sa mère qui m'a ouvert dans une rue de Cambridge, parce que j'étais allé voir Dougie Fields, bah, que tu as bien connu. Tu as fait une chanson avec lui. Dougie Fields était le co-locataire de l'appartement où vivait Syd Barrett à Londres.
Où j'ai passé du temps d'ailleurs.
Tu as passé du temps. Et c'est, on voit, pardon, c'est vraiment, c'est très un truc d'érudition un peu maniaque, mais c'est le plancher qu'on voit peint sur la pochette de Madcap Love, qui est le premier album de Syd Barrett. C'est Dougie Fields qui avait peint ces lattes de plancher. Et je suis allé le voir, il était dans ce même appartement, et il me racontait que Syd Barrett, qui était une pop star incroyable à l'époque du début de Pink Floyd, que les filles faisaient la queue, enfin, c'est un peu comme je sais pas, PNL aujourd'hui, elles faisaient la queue et qu'il en prenait une, enfin, c'est des trucs bon, très, très, aujourd'hui, enfin bon, c'est très détestable, mais enfin, bon, c'est...
À ce sujet, il y a un DVD qui vient de sortir,
oui.
Un documentaire sur Syd, justement,
oui.
Qui est extraordinaire, avec tous les acteurs de cette époque.
Oui.
Et c'est très émouvant à voir, parce qu'en fait, j'ai rencontré, en étant à Londres assez longtemps, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont déjà disparu, entre le moment oui. où le film a été fait et la sortie, qui oui. est, la sortie, c'est il y a quelques mois, je crois. Oui. Et vraiment, je te recommande vraiment de regarder ce documentaire. Bon, il y a deux guides dedans, bien sûr.
Oui. Qui était peintre, lui aussi, peintre, qui a fait une carrière de peintre.
Et qui m'a fait rencontrer aussi tout l'entourage. J'ai rencontré Rosemary, la sœur de Barrett, les frères de Barrett. Il m'avait invité à venir voir une célébration de sa musique à Cambridge.
Tu as repris Arnold Lane pour la circonstance, non? Non, pas pour cette...
Non, pas du tout.
T'étais pas convié à le faire.
Non, je suis venu comme ça, vraiment... profil bas, et c'était très émouvant de me retrouver dans ces endroits, quoi.
Ouais.
Dans l'endroit où il avait vécu.
Oui, ben, je voudrais te demander juste une chose, parce que je suis curieux de ça. Finalement, bon, c'était une obsession de jeunesse qu'on a eue, c'est-à-dire le génie qui disparaît, le silence du poète, hein, c'est un peu l'exil de Rimbaud.
Le mystère. Ça reste un mystère, personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. Hein. Est-ce que c'est neurone en grillé, ou est-ce que il est devenu quelqu'un d'autre, hein. Vraiment, c'était ça. Il disait, quand on sonnait à sa porte, il disait « Syd n'habite plus là ».
Oui, c'est ça. Ben, c'est appelé Roger, d'ailleurs. Et ça... D'ailleurs, je me souviens que quand je suis arrivé, j'ai sonné devant chez lui. Donc sa mère, qui était toute petite femme anglaise, j'ai fait mon baratin, je dis je suis un étudiant, etc. Et elle m'a dit, c'est très sympathique tout ça. Et elle s'est tournée, elle a dit, Roger, il y a this young French student, il y a ce jeune étudiant français qui est là, est-ce que tu veux venir lui parler? Et j'ai entendu une voix, mais c'était comme un film d'horreur, un nom caverneux comme ça, et c'était fini. Il n'a pas voulu apparaître. Bon, enfin, bref. Je me demande maintenant, qu'est-ce qui te reste de cette période de Barrett? Enfin, qu'est-ce qui te reste de lui?
Beaucoup de choses. Enfin, toute ma période londonienne, j'ai vécu là-bas pendant plus de 10 ans.
Oui.
Et j'ai absorbé tout un tas de choses qui étaient des obsessions adolescentes, en fait.
Oui.
Je m'en suis approché, véritablement. Oui. J'ai absorbé ça une seconde fois, mais en étant adulte. C'est très particulier.
Et ça t'a nourri de la même façon ou...
Ça a nourri mon
ça
album.
Ça s'est pas affadi.
Ça nourrit un album qui s'appelle Blitz, qui est l'avant-dernier.
2017, ouais.
Où j'avais l'impression d'être branché en permanence sur les énergies de Syd. Et je n'arrêtais pas de rentrer. J'arrêtais pas de rencontrer des gens qu'il avait connus. Ouais. C'était presque fortuit.
Ouais.
J'ai rencontré des gens qui étaient au Chelsea Cluster, dans son appartement. Ouais. J'ai rencontré Joe Boyd, qui avait produit Arnold Lane.
Oui, qui était
chaque rencontre, c'était comme si j'étais contraint d'aller au bout de cette chose-là, d'être au bout de cette obsession. Bon. Et donc j'y suis allé.
Bon, bah ça continue à te nourrir. Bon, on écoute un autre de tes choix.
I took your heart. I did things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. These popes and preachers would tell me I did wrong, but hey, I made a mirror flip. Now what do I say to make me exist? Oh, stranger. We'll be right back.
possibilities. I'm kissing all over your body, my Nefertiti. And every time I think the planets are aligning, you're still so close, but yet so far.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Un autre choix d'Étienne Daho, je ne parle pas du jingle qu'on vient d'entendre, en compagnie duquel je me trouve dans ce studio de France Inter, dans le cadre d'une soirée spéciale qui lui est consacrée à l'occasion de la sortie de son album live, hein, le premier enregistré à Bercy. Il s'agit, ce qu'on vient d'entendre, une des plus grandes voix soul d'aujourd'hui, je m'en suis vraiment rendu compte, l'anglais Timothy McKenzie dit Labyrinth, ouais. Voilà, comme un labyrinthe. Un londonien d'origine jamaïcaine, Labyrinth a chanté, il a travaillé avec à peu près toutes les voix qui comptent, hein, dans la pop aujourd'hui, Ed Sheeran, l'Australienne CIA, Kanye West.
C'est un producteur de génie. Hein.
C'est ça, alors.
Dis-nous. Je l'ai connu, en fait, grâce à la série Salma Hayek, Euphoria.
Oui.
Il a fait toute la BO de cette série qui est assez géniale, vraiment, qui est vraiment.
Ça raconte quoi, cette série ?
Un renouveau. C'est un peu la désespérance de toute une adolescence qui se drogue, qui est complètement perdu sexuellement. Enfin, c'est très très beau. Enfin, c'est très très beau et très émouvant, véritablement, sans voyeurisme. Et la BO est fantastique, quoi. Donc j'ai acheté l'album. Et donc j'ai découvert qui était Labyrinth. Et depuis, j'ai essayé d'acheter plein de ses disques. Oui. Je trouve que ses productions sont incroyables.
Et tu dis que tu l'as rencontré?
Non, j'ai rencontré musicalement.
Ah, musicalement.
Non, je ne l'ai pas rencontré.
Alors, il y a une chose frappante, c'est que comme Daniel Caesar de l'autre côté de l'Atlantique, Timothy McKenzie, donc Labyrinth, lui, j'ai appris ça, il chantait lui aussi à l'église avec ses 8 frères et sœurs dans le quartier de Hackney, hein, une banlieue du nord-est de Londres, que tu connais sans doute, où il a grandi. Enfin, je me dis, il y a quand même un truc, c'est... Dans la soul, il y a cette espèce de background religieux, etc. C'est une chose sur laquelle je t'ai jamais entendu interroger. Est-ce que tu chantais à l'église, ta mère t'emmenait, pas du tout, t'as absolument pas eu ce truc de jouer d'une chorale.
Non, pas du tout, mais ouais. Je chantais sur les disques.
Bah, c'était notre religion.
C'est là, exactement. Ouais.
Tu chantais sur quoi?
Je récupérais tous les tubes yéyé de l'époque, mais aussi toute la Motown. C'est là où j'ai commencé à aimer les voix de la soul. Hein, ça a commencé avec la pop soul, les Supremes, surtout Smokey Robinson.
Oui. Hein, grand compositeur de chansons aussi.
Extraordinaire. Et puis ça a continué après avec tous les autres, Ovi Wright, etc. Enfin, donc j'ai une culture pop qui est assez importante parce que j'aime ça vraiment et que c'est ma vie.
Oui.
Mais j'aime beaucoup la soul et vraiment c'est une musique que j'écoute beaucoup.
Mais tu continues à le faire parce que tous les choix pratiquement que tu as fait, enfin hormis peut-être deux ou trois choses, ce sont des voix soul, des voix noires. Enfin.
Oui, parce que je voulais choisir des choses récentes et que ce que j'écoute dans les musiques récentes, c'est absolument ça.
Oui.
Voilà.
C'est dit. Alors, il y a aussi un autre choix que tu as fait. C'est ceci qu'on va écouter, Jungle.
And I'm sweating from trees, sweet summer breeze in the evening.
Alors, contrairement à ce que j'ai dit, parce que j'étais troublé, c'est pas du tout Jungle qu'on a écouté, c'est pas du tout ce duo londonien de Nouvelle Soul, mais c'est une trouvaille d'Étienne Dao, qui est là en face de moi dans ce studio.
Alors, qui revient un peu à nos vieilles obsessions.
Oui, c'est ce que tu disais. Alors, moi, pour moi, il y a un côté un peu les ballades du Velvet Underground, mais enregistrées au Baléares, quoi. Il y a un truc comme ça.
Oui, c'est ça, en fait, c'est deux frangins anglais qui habitent à Séville, en fait.
C'est ça, voilà. Ils sont dans le sud de l'Espagne.
Qui étaient footballeurs, et voilà.
Ah oui, ils étaient footballeurs. Oui. Ah bon, mais comment t'es tombé là-dessus?
Je suis tombé là-dessus sur une radio qui s'appelle Radio, qui est une application qui est assez intéressante. Je ne vais pas faire de concurrence avec vous.
Tout est complémentaire.
Où je découvre pas mal de choses en fait aussi.
Ouais. Et donc c'est pour ça.
Et
donc
j'ai entendu ce titre et vraiment c'était.
T'as quoi, t'as chasamé comme on dit.
Tout d'un coup il y a eu un espèce de rayon de soleil. Je trouvais ça très beau.
Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors là pour le coup, qui en effet beaucoup plus familier. Enfin pour qui connaît ta musique. Et c'est drôle parce que c'est.
Mais j'aime bien les groupes de frangins en fait. Voilà.
Ah bah oui.
Jesus et Mary Chain, les Beach Boys.
C'est vrai. Ah mais oui, c'est vrai.
Sons of Raphael, enfin, il y a plein de.
Oui, mais toi, tu avais des sœurs plutôt, non?
Oui, non, oui. j'ai jamais fait de musique en famille.
T'as jamais fait de musique avec tes sœurs, non?
Non, jamais, non.
Pas du tout, elles sont pas du tout.
Non, pas du tout.
Ah bon, mais pourtant, elles t'ont fait découvrir des choses quand tu
oui,
étais.
Oui, parce que je suis dans une famille qui a écouté beaucoup, beaucoup de musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc j'ai écouté plein, plein de choses.
Et ta mère écoutait quoi, par exemple?
Ma mère adorait Dionne Warwick, par exemple.
Ah oui Ah bah donc la soul ne vient pas de nulle part. Enfin, oui, elle ne vient pas que de toi.
Mais aussi. Plutôt Ricky Nelson, Presley, Sinatra, des choses comme ça.
Oui. Ricky Nelson, c'est pas si fréquent en France parce que, en fait, il est surtout connu pour ses ballades. C'était vraiment une voix de velours.
Ouais. À la maison, on avait les trois premiers albums.
Ah ouais, mais Ricky
Nelson. Et ça m'est resté parce qu'après, je voulais vraiment reproduire, quand j'ai fait mes premiers albums, je voulais reproduire ces pochettes-là.
Oui, parce que d'ailleurs, il y avait.
J'ai essayé sans succès avec Giacomoni, avec Pierre et Gilles.
Mais d'ailleurs, c'est devenu autre chose. D'ailleurs, ta première chanson connue, c'était Cowboy.
Exactement.
Et quand on sait que Ricky Nelson, il jouait dans des films de cowboy.
Enfin, connu, on en a vendu un demi.
Enfin, moi, je la connais.
Oui, tu connaissais la cassette.
Je connaissais la cassette. Non, mais Cowboy, on l'entendait un peu de la radio libre. Enfin,
ah oui, je me souviens plus.
Non, enfin, moi, je me souviens. Oui, je sais que t'es un peu amnésique par rapport à cette période. Mais bon. Alors, on va justement écouter d'autres frères. Alors, ça, je suis content. Parce que c'est des frères que j'ai découverts moi-même.
Yeah.
France Inter. Very Good Trip, une soirée avec Étienne Dao.
Un choix d'Étienne Dao que vous venez d'entendre, ça me fait très plaisir parce que c'est également le mien il y a plusieurs années. C'est extrait d'un album qui s'appelle Full Throated Messianic Homage, c'est hommage messianique à pleine gorge, signé par les Sons of Raphael, les fils de Raphaël. C'est ouais, deux
sont, frères londoniens. Oui, un peu déjantés, un peu incontrôlables.
Oui, mais tu sais qu'ils ont passé plusieurs années à rêver, élaborer cet album qui n'a pas eu l'accueil qu'il méritait.
Ah, moi, pour moi, c'était la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est un tube monstrueux.
Bah oui, mais moi, je l'ai pensé aussi. Tu sais que c'est une des dernières productions de Philippe Zdar.
Je sais, oui, l'album était enregistré ouais. Les Martyrs à Motorbasse.
Oui. Tu as été mis au courant comment ? Enfin, qu'est-ce que tu l'as écouté avant qu'il sorte ? On t'en a parlé en te disant.
Ouais, j'étais dans le coin, ouais, bien sûr, et j'ai entendu l'album avant qu'il sorte, ouais.
Et écoute, enfin, en tout cas, tu sais que.
Mais j'étais convaincu vraiment que ce serait énorme, donc.
Oui, c'est.
C'est fait partie des mystères de la pop, quoi.
Mais est-ce que comme ça, toi, tu as des. Dans ta production à toi, des déceptions par rapport à des trucs dont tu disais, mais là, c'est une évidence, ça va marcher, du feu de Dieu, etc. Et...
Non, pas vraiment. Je peux pas dire que j'ai des vraies déceptions.
Ouais.
J'ai la chance d'avoir. Eu toujours des oreilles bienveillantes.
Oui. Non, mais inversement aussi, des choses qui marchent alors que tu pensais que vraiment ça resterait très obscur et que c'est vraiment quelque chose que tu as fait pour te faire plaisir et puis tout à coup...
Ah oui, le condamné à mort, par exemple.
Mais oui, c'est, je pensais à ça.
Vraiment, c'était vraiment un pas de côté comme ça, qui n'en est pas un, finalement, oui. Parce que ça fait partie de mes vieilles obsessions.
Mais
aussi.
Je me rappelle, on s'était rencontrés dans la rue, dans le 18e, et tu m'avais dit que tu le préparais.
Oui.
Et moi, naïvement, je pensais que c'est quelque chose que tu faisais parce que tu avais un énorme budget... grâce à tes royalties, je ne sais pas.
Et enfin, je l'ai financé tout seul.
En fait c'est un projet que tu as fait comme un inconnu.
Ouais, complètement.
Comme un mécène, tu étais mécène de toi-même.
J'étais en fin de contrat chez EMI.
Oui.
Dieu merci, j'ai quitté la maison. Et donc j'étais libre de contrat, donc j'avais du temps pour faire un projet qui me tenait à cœur et que je voulais faire depuis longtemps.
Oui.
Et il y avait Jeanne qui était complètement partante.
Moreau, oui.
C'était le moment. Donc on l'a fait oui. Avec personne pour regarder au-dessus de notre épaule.
Oui.
Et c'était un album en toute liberté et qui a eu vraiment qui a eu une belle carrière par rapport à ce, oui. que, par rapport à ce que c'est.
Oui.
Et on a fait des beaux concerts. Enfin, c'est vraiment une parenthèse de magie pour moi.
Oui, et puis de liberté. Parce que c'est,
de liberté,
c'est la chose
puis,
la plus rare qui soit aujourd'hui. Hein.
Et puis de remettre les choses à leur place, ça m'a permis de repartir en étant un peu plus libre.
Tu t'es allégé.
Je me suis allégé, oui.
Ouais, parce que aussi c'est une obsession de jeunesse.
Non, il y avait aussi une chose avec la scène.
Oui.
C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'étais avec Jeanne Moreau qui était à côté de moi. Oui. Il y avait une partie d'acting où je devais lire des textes qui sont quand même assez intense.
Oui.
Et je devais parfois rester 20 minutes dans la lumière sans rien faire.
Ah oui.
Quand tu fais ça,
pour un chanteur, c'est rare.
Non, mais quand tu fais ça, tu peux tout faire. Hein. Je me souviens qu'on a joué à Avignon,
ah oui.
Palais des Papes, et on m'avait dit juste avant, le public peut vraiment se manifester de manière très hostile
oui.
et très bruyante, juste avant de monter sans scène.
Ah oui, que les gens n'aiment pas un spectacle à Avignon, ils le font savoir.
Mon Dieu. Ça a été merveilleux.
Ouais. Voilà. Écoute, il y a maintenant, quelque chose dont je veux te faire parler,
oui.
Et tu m'as écrit, c'est une obsession, Unloved.
Ah oui, c'est une histoire... J'ai écouté un de leurs titres qui s'appelle Guilty of Love,
oui.
et je suis vraiment tombé amoureux de toute la prod, de la voix. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme qui chantait. Mm-hmm. Et j'habitais à Londres encore à l'époque, c'est il y a 4-5 ans, et j'ai su qu'ils faisaient un DJ set à Rough Trade. Et donc j'y suis allé.
Il y avait sans savoir qui c'était, d'où il venait.
Non, j'avais essayé de traquer un peu, d'essayer d'avoir des informations, parce que j'aimais tellement ce que j'avais entendu. Je veux savoir, j'ai rien trouvé, absolument rien.
C'est rare de l'autre jour avec les moteurs ouais. de recherche.
Oui, et donc je suis allé à Rough Trade, je suis arrivé trop tard. Donc je suis resté dehors avec plein de gens qui attendaient pour pouvoir rentrer dans le magasin.
Ouais.
Et à un moment, je me suis dit, bon, je pars, c'est trop, enfin, tant pis, j'aurais essayé. Et en me retournant, je télescope quelqu'un, et c'était David Holmes.
Oui,
qui un des trois.
Musicien. Ah oui, ben c'est. Mais David Holmes, c'est celui qui fait les musiques de films, c'est ça?
Exactement.
Oui.
Et donc je lui dis mon amour pour cette chanson, et il me dit, mais viens rencontrer le reste du groupe. Je n'ai pas dit qui j'étais, je n'ai pas dit que je faisais de la musique. Et Kiefe Scientia, qui est le deuxième, oui, qu'on connaît parce qu'il a fait des BO de séries comme True Detective, par exemple. Et il m'a demandé mon email. Et j'ai pensé qu'il me le demandait pour se débarrasser de moi en tant que fan psychopathe. Et donc, en fait, trois semaines après, ils m'ont envoyé un mail en disant... ils habitaient Los Angeles, ils m'ont dit, on revient à Londres, on se rencontre. Et là, c'était vraiment le début d'une amitié qui dure toujours.
Et d'une
collaboration et d'inspiration, véritablement. Oui. J'adore vraiment leur musique, je les aime beaucoup. Et ils ont quitté Los Angeles pour s'installer à Saint-Malo.
Ah bon?
Ils sont venus me visiter à Noël il y a quelques années. Ils ont tellement aimé, ils ont tout lâché, ils sont venus s'installer là-bas.
Mais quoi, tu veux dire, ils vivent tous les trois dans la même maison, en communauté
Il est irlandais, je crois qu'il est.
Ah oui.
Il est à Belfast. Mais en tout cas, Jade et Kiefe, qui sont un couple, habitent à Saint-Malo. Ouais.
Ah bah ça, écoute.
Donc c'est bien, je les ai sous la papatte et on peut travailler souvent ensemble.
Alors écoute, la chanson que tu as choisie, c'est When a Woman is Around.
Oui.
Voilà, et on va l'écouter.
Take it like a man. Keep what's
On se disait qu'Étienne Dao, que la seule chose qui manquait, c'était quelques bières et l'idée. Puis parce qu'en fait, c'est beaucoup trop court.
La prochaine fois.
Parce qu'il était en train de chanter.
La prochaine fois, je les amènerai.
Bah oui, mais non, mais il m'a dit que c'était la personne la plus drôle qu'il ait jamais rencontrée.
Tifo Ciencia.
Oui, c'est ça.
Oui.
Tu me dis, et puis mais alors il me parlait de la chanteuse qui était apparemment un personnage charismatique. Enfin, en tout cas, alors moi, ça m'a frappé parce qu'à la fin, ça me faisait beaucoup penser aux productions de girl groups de Spector des années 60.
Ça fait partie de leurs obsessions, vraiment aussi.
Ouais, ça s'entend vraiment.
Les Paris Sisters, etc.
Ouais, mais c'est. En tout cas, écoute, et donc ils ont collaboré avec toi.
Dans mon dernier album, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Boyfriend.
Oui, c'est ça.
Qu'on a écrit ensemble.
Et d'ailleurs, je voulais te dire, à propos de justement de ce dernier album, qu'on parlait de soul. Pour moi, tu as fait une chanson qui est vraiment ta plus belle, une de tes plus belles chansons qui est soul, c'est Le Phare.
Oh, merci.
Ah, mais c'est une merveille. Vraiment, je tenais à te le dire parce que j'aurais peut-être jamais l'occasion.
Très, très touché.
Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose. Alors, écoute, il nous reste un peu de temps. On va t'entendre, toi, et reprendre une... Mais oui, pas à capella, t'inquiète pas. Non, je suis pas salaud à ce point. Surtout après la courte nuit que t'as passée la veille. Bon. Tu as une autre obsession, enfin, du moins une passion récente, une admiration, on peut dire ça, pour Margot Gorian. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots de qui
Ah oui, en fait, elle a fait un album en 1967 qui était très prometteur et qui a fini à la poubelle, quoi.
C'est-à-dire encore une maudite.
Le jour de la sortie. Et en fait, au fil des années, cet album est devenu tellement culte qu'il est cité, aimé, admiré par plein de gens qui comptent et par plein de gens qu'on aime dans la musique.
Alors, parenthèse, tu sais qu'il y a dedans une chanson qui s'appelle Sunday Morning qui n'a rien à voir avec celle de Velvet Underground qui a été rendue célèbre par un groupe de Chicago qui est complètement oublié qui s'appelle Spanky and Our Gang. C'est un groupe un peu à la The Fifth Dimension, c'est une sorte de soul psychédélique. Enfin bon, continue.
Et donc voilà, j'ai été en contact avec elle. Elle est morte il y a pas longtemps, mais on a été en contact avec elle et avec son fils. Et ça a été un moment parce que j'ai réexhumé un album qui s'appelle Surf, qui est un album de reprise dans lequel il y avait cette chanson.
Oui.
Et qui est ressorti pour le disque Hard Day il y a quelques années.
Voilà.
Ça m'a permis de ressortir ce disque qui avait été à l'époque mis au placard par Virgin. Et voilà, j'ai repris cette chanson qui s'appelle Come to Me Slowly.
Et qu'on a juste le temps d'écouter. Come to me slowly, c'est une très belle composition de la regrettée Margot Gurian, reprise par Étienne Dao.
Écoute, tu peux pas savoir ce que ça me fait de l'écouter pour la première fois à la radio.
C'est vrai, c'est jamais passé.
Jamais passé.
Bah écoute, il fallait que tu viennes. Pour
joie,
ça.
Joie.
Oui, bah voilà. Donc, écoute, Étienne, il y a plus de fêtes auxquelles on se croise, malheureusement, mais enfin, on a gardé des liens. Et écouter la même musique avec un ami, même lointain, c'est peut-être la meilleure façon de garder des liens extrêmement intimes avec lui.
Extrêmement intimes.
Et je t'en vraiment, merci de tout cœur, Étienne.
Merci à toi.
Voilà, merci à Antoine Larcher qui réalisait l'émission, Ludovic Asso à la technique, merci également à Guillaume Cohener, comme à Romain Couturier. France Inter, il est 22h. Et c'est Sarah Ders qui présente les informations. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Mishka, bonsoir à tous. C'est un premier moment crucial pour le gouvernement. La commission mixte paritaire vient de se terminer et les 7 députés, les 7 sénateurs